Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1984, pour trois volets de l'émission Les Inconnus de l'Histoire, Jean Montalbetti faisait le portrait de Flavius Arrien. Grec, né à Nicomédie en Bithynie à la fin du 1er siècle de notre ère, il fut l'ami de l'empereur Adrien, gouverneur de Cappadoce, archonte d'Athènes et l'auteur de plusieurs ouvrages historiques. Parmi eux, une histoire d'Alexandre le Grand qui retrace le parcours et les conquêtes du roi depuis son accession au trône en 336 avant notre ère jusqu'à sa mort en 323. Dans le dernier volet de la série, les historiens Pierre Vidal-Naquet, Pierre Briand, Henri Tonnet et Paul Goukowski montraient comment, à travers le récit des conquêtes d'Alexandre jusqu'en Inde, plus de 4 siècles avant lui, Flavius Arrien adressait un message à l'Empire romain de son temps, celui du 2e siècle de notre ère, alors à son apogée. Les Inconnus de l'Histoire, Flavius Arrien, 3e et dernier volet, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mars 1984.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconosciuti.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende zero.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire. Enquête sur l'historien d'Alexandre et de la confrontation Orient-Occident dans l'Empire romain d'Adrien. Flavius Arrien par Jean Montalbetti, médiateur Pierre Vidal-Naquet. Expert Henri Tonnet, professeur à l'Institut national de langue et civilisation orientale, Pierre Briand, professeur à Toulouse 2, Paul Goukowski, professeur à Nancy 2, avec la voix de Philippe Moreau dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau.
Celui qui condamne Alexandre doit le faire en produisant non seulement ce qui chez lui est condamnable, mais en rassemblant en un seul faisceau absolument tout ce qu'il a fait. Qu'il considère alors ce qu'il est lui-même, ce qu'a été son sort, en regard de ce que fut Alexandre, du degré de prospérité humaine qu'il a atteint, lui qui est devenu sans aucune contestation possible, roi de 2 continents et dont le nom est parvenu aux extrémités de l'univers. Alors que celui qui le condamne est un tout petit personnage qui peine sur de petits problèmes qu'il n'arrive même pas à résoudre.
Henri Tonnet, est-ce que, après la période de vie active de Flavius Arrien, sa période militaire, sa période administrative et politique, il y a eu la période de l'écrivain, ou est-ce que, au contraire, dans ces années justement de campagne, Arrien écrit déjà son histoire? Et quel va être exactement son rôle lorsqu'il va s'installer à la fin de sa vie à Athènes?
Effectivement, là, il y a un problème parce que nous ne savons pas de façon sûre quand a été écrite l'œuvre qui, pour nous, et pour Arrien lui-même, et son œuvre principale, à savoir l'Anabase. Certains, comme Bosworth, ont pensé qu'il fallait dater du début de la carrière littéraire d'Arrien, l'Anabase. La majorité actuellement des critiques pensent qu'au contraire, l'Anabase date d'une période de retraite, mais enfin c'est un peu une supposition, postérieure à la fin de la légation de Cappadoce.
C'est-à-dire après 137.
Après 137. Certains ont pensé qu'après 137, parce qu'il y avait une sorte de filière, Arien était aussi devenu gouverneur de Syrie. La chose n'est pas sûre. Comme on retrouve notre Arien en 145 à Athènes comme archonte, on suppose qu'entre 137 et 145, il s'est retiré à Athènes. Mais là aussi, c'est une supposition. On ne sait rien de précis. On ne peut pas tabler sur l'absence de documents pour dire Arien était à Athènes entre 137 et 145.
En tout cas, en 145-146, il est archonte éponyme. Alors, est-ce une tâche purement honorifique? Est-ce le couronnement de sa carrière publique?
Au point de vue romain, il est bien évident que cet archontat n'a aucune importance, que le point culminant de sa carrière, c'est son gouvernement de Cappadoce. Maintenant, Arien étant un intellectuel grec, étant un admirateur, comme tous à cette époque, du passé athénien, se retrouver archonte de cette vieille cité est une dignité qui flatte un certain orgueil d'écrivain en grec. Pour les Athéniens eux-mêmes, l'opération n'était pas sans profit. Arien avait été le favori du précédent empereur. Antonin le Pieux, comme le nom l'indique, avait une grande piété filiale, même s'agissant d'un fils adoptif, et donc honorer un favori d'Adrien était pour la cité athénienne une façon d'acquérir la faveur impériale. Cette distinction était aussi accompagnée de dons financiers non négligeables, et on peut considérer cet aspect des choses aussi. Arien devait être fortuné au moment où il s'est installé à Athènes, et durant son archontat, sans doute a-t-il fait profiter ses concitoyens de ses largesses financières.
Pierre Vidal-Naquet.
On a longtemps soutenu qu'il y avait deux périodes radicalement différentes dans la vie d'Arien, sa période d'homme d'action et de militaire, et sa période où il est citoyen d'Athènes, où il devient même archonte d'Athènes, et où il est un homme de cabinet. Or, je crois que c'est faux. Et nous avons une preuve matérielle que c'est faux, c'est justement cette inscription de Cordoue où, au début de sa carrière, avant le consulat, il se qualifie de disciple des muses. S'il est un disciple des muses, c'est qu'il a déjà composé ou esquissé une œuvre. Certains, notamment l'anglais Bosworth, vont beaucoup plus loin que je n'irai moi-même. Ils estiment que l'Anabase d'Alexandre, son œuvre majeure pour nous, a été composée autour des années 20. Personnellement, je ne le crois pas. Mais ce qu'il y a de juste, si vous voulez, dans cette erreur, beaucoup d'erreurs ont un noyau juste, c'est l'idée que, effectivement, Arien a été les deux, qu'on ne peut pas complètement séparer sa carrière d'homme des muses et sa carrière d'homme d'État, de militaire. Une partie d'entre elles, d'ailleurs, a été écrite sur le terrain lui-même. Il est évident que ce n'est pas à Athènes, c'est sur place qu'il a écrit le périple de la mer Noire, qui se présente du reste comme un rapport adressé à Adrien.
Et c'est l'époque où il est donc le représentant de
l'empereur
en Cappadoce.
Les gars en Cappadoce, c'est oui. Ça, exactement. Je crois personnellement que l'Anabase a plutôt été écrite à Athènes. Mais enfin, il n'y a pas de séparation absolue. C'est à cause de ce genre de choses qu'il m'intéresse personnellement.
On retrouve là aussi le personnage double.
Bien entendu, d'ailleurs, vous savez, même physiquement, le seul portrait que nous ayons d'Arien et qui se trouve au Musée national d'Athènes est un Hermès double. D'un côté, Il y a Xénophon, c'est une statue comme un Janus, si vous voulez. D'un côté, il y a Xénophon, et de l'autre, un personnage qui est certainement Arien.
Pierre Vidal-Naquet, il n'y a pas chez Flavius Arien que la présence des deux mondes, romain et grec. Il y a aussi chez l'historien d'Alexandre la confrontation Orient-Occident. Alors, s'agit-il d'une opposition ou bien Alexandre accepte-t-il, respecte-t-il les valeurs des barbares?
Est-ce qu'il respecte les valeurs des autres? Ce vieux problème, il a été posé dans les années 30 du 19e siècle. Par un Allemand qui s'appelait Droysen. Droysen, n'est-ce pas, était fils d'un pasteur luthérien, immense érudit. Qui a écrit successivement deux histoires d'Alexandre et qui a créé le concept d'hellénisme. Si nous parlons aujourd'hui de civilisation hellénistique, c'est parce que Droysen a inventé littéralement ce concept qui était entièrement ignoré de l'Antiquité, qui était entièrement ignoré de la Renaissance et des temps classiques. Et pour Droysen, Alexandre symbolisait la rencontre de l'Orient et de l'Occident grec, étant entendu que l'Orient était religieux, que l'Orient était despotique, qu'Alexandre, au contraire, était le porteur de l'hellénisme, le porteur du rationalisme, le porteur de la conquête. Alors, comment est-ce qu'il a vécu cela? Comment est-ce qu'il a vu cela? Je dis bien vécu, parce qu'il l'a intériorisé prodigieusement, Droysen, tout en étant, je le répète, un très grand érudit. Eh bien, si vous voulez, au maximum de l'opposition, il a placé la fameuse rencontre entre Alexandre et l'Indien, le gymnosophiste indien, c'est-à-dire le fakir indien, Kalanos. Kalanos se fait brûler devant Alexandre pour ne pas être diminué. Alors, Droysen a vu là-dedans la grande opposition de l'Orient et de l'Occident. Mais il y a opposition, mais il y a aussi fusion. C'est comme cela que Droysen interprète le discours de Piste. Il dit, la preuve, n'est-ce pas, qu'il y a eu fusion, c'est qu'Alexandre a en quelque sorte détruit sa propre armée pour la remplacer par une armée gréco-barbare. Au lieu d'être le roi des Macédoniens et le chef des Grecs, il devient le chef d'une monarchie universelle représentée et s'appuyant sur une armée mixte. Voilà, si vous voulez, l'hypothèse grandiose de Droysen. Est-elle exacte? Non, bien sûr. Et Droysen a été en quelque sorte déchiqueté par les historiens positivistes de son temps. Et puis, elle est reparue, cette idée. Elle est reparue l'année même où Hitler prenait le pouvoir par un Anglais qui s'appelle Tarn. Et Tarn a dit, oui, Alexandre n'est pas un modèle monarchique comme l'a voulu après lui le stoïcisme, il est, lui, l'inventeur d'une monarchie fraternelle et universelle. Et il a évoqué cette scène fameuse de la réconciliation d'Opis. Voilà ce qui se passe. Il y a rébellion chez les Macédoniens en 324. Ils sont furieux parce que Alexandre engage de plus en plus de
soldats barbares, de 30 000 Perses qui entrent dans
son armée. Il prend même des généraux, il nomme des satrapes perses. Les Macédoniens sont absolument indignés. Qu'est-ce que c'est que ce roi perse que nous avons là, qui exige maintenant qu'on se prosterne devant lui? C'est une chose épouvantable. Alors Alexandre fait trucider les chefs de la rébellion.
13 d'entre eux.
13 d'entre eux, oui. Et ensuite, il organise une sorte d'énorme banquet de réconciliation. Il faut, pour comprendre cela, savoir que le banquet civique, c'est une institution de la cité grecque, aussi bien à l'époque archaïque qu'à l'époque classique, qu'à l'époque hellénistique et encore à l'époque romaine. Banquet réservé en principe, naturellement, aux citoyens, ou qui scellait en quelque sorte la communion civique. Et ce que fait Alexandre là, dans le récit d'Arien, c'est un gigantesque banquet qui réunit les Grecs, les Macédoniens, et autour d'un cratère colossal avec lequel Alexandre fait une libation et organise une sorte de prière commune pour la concorde. Et on a vu dans ce banquet, on a vu effectivement la preuve matérielle de cette aspiration à l'universalisme.
C'est aussi une occasion pour Alexandre de dresser une sorte de bilan de son
Exactement.
Action.
Exactement, c'est le discours de Pice prononcé à ce moment-là, où il s'adresse aux Macédoniens, il dit « Comment vous plaignez, mais regardez où vous êtes, vous avez l'Inde, vous avez la Perse, vous avez Suse, vous avez l'Égypte. » Bien. Alors, en même temps que Tarn, vers la même époque où Tarn faisait donc cette théorie, reprenant en sorte celle de Droysen. Un historien, lui, qui était un nazi parfait, qui s'appelait Helmut Merve, qui avait fait d'ailleurs, avant sa conversion au nazisme, des travaux remarquables sur la prosopographie de l'Empire d'Alexandre, a publié dans une revue allemande un article où il disait « Alexandre est en somme le précurseur du racisme moderne, puisque, en somme, il appelle non pas à la réconciliation universelle, mais à la réconciliation des Grecs et des Perses, c'est-à-dire de deux peuples ariens, de deux peuples indo-européens. » Naturellement, c'était parfaitement pervers comme remarque, dans la mesure où Alexandre n'avait pas
la moindre notion de peuple arien.
De peuple arien, ni d'une parenté quelconque entre les Grecs et les Perses. Mais le petit noyau juste de cette remarque perverse était que dans ce discours d'Opice et dans ce banquet d'Opice, Alexandre ne fait pas appel à la réconciliation et à la concorde de tous les peuples, il fait appel à la concorde de tous les peuples sous la direction de deux d'entre eux, qui sont les Gréco-Macédoniens et les Perse.
D'entre vous a conscience d'avoir plus peiné pour moi que moi pour lui? Allons donc. Que celui qui a des cicatrices se déshabille et qu'il les fasse voir. Et moi je ferai voir les miennes à mon tour. Car il n'y a pas une partie de mon corps, du moins par devant, qui soit restée sans blessure. Et il n'y a pas une arme de main ou de jet dont je ne porte les marques sur ma personne. J'ai été blessé par le glaive au corps à corps. J'ai reçu des flèches, j'ai été touché par les projectiles des engins de guerre, j'ai reçu maintes fois des pierres, des coups de massue, tout cela pour vous, pour votre gloire, pour votre richesse. Je vous fais franchir en vainqueur toute la terre, toute la mer, tous les fleuves, toutes les montagnes et toutes les plaines. Mes noces et les vôtres ont été célébrées ensemble, et beaucoup de vos enfants seront parents des miens. Mieux, celui qui avait des dettes, sans m'occuper de savoir comment il les avait faites, alors que vous touchez de telles soldes et faites un tel butin lorsqu'un siège est suivi de pillage, je les lui ai payés. Vous avez pour la plupart des couronnes d'or qui sont des témoignages impérissables de votre valeur et de ma considération. Ceux qui ont trouvé la mort ont eu une fin glorieuse et des funérailles splendides. La statue en bronze de la plupart d'entre eux se dresse dans leur pays. Leurs parents reçoivent les marques d'honneur et sont exempts de tout service public et de tout impôt. Car personne, sous mon commandement, n'est mort en s'enfuyant. Et actuellement, je m'apprêtais à renvoyer ceux qui ne sont plus bons pour le service en faisant un objet d'envie pour les gens restés au pays. Mais, puisque vous voulez tous vous en aller, allez-vous-en tous. Et de retour au pays, faites savoir que votre roi, c'est Alexandre, qui a vaincu les Perses, les Mèdes, les Bactriens et les Sacs, qui a soumis les Uxiens, les Aracosiens, la Drangiane, conquis la Partienne, la Corasmie et l'Hyrcanie, jusqu'à la mer Caspienne, qui a franchi le Caucase au-delà des portes caspiennes, qui a traversé les fleuves Oxus et Tanaïs, et en outre l'Indus, que personne n'avait traversé en dehors de Dionysos, et l'Hydaspe, et la Cécinès, et l'Hydraotès, et qui aurait traversé l'Iphase, si vous n'aviez reculé par peur, qui s'est lancé sur la grande mer par l'une et l'autre bouche de l'Indus, qui a traversé le désert de Gédrosie, par où personne auparavant n'était passé avec une armée, qui, chemin faisant, conquis la Carmanie et le territoire des Orites, que vous avez ramené à Suse après que sa flotte eut rejoint en navigation côtière la mer Persique à partir du territoire indien. Faites savoir, dis-je, que cet Alexandre, vous l'avez abandonné et que vous êtes parti en le laissant sous la garde des barbares vaincus. Et soyez sûr, en annonçant cela, que les hommes célébreront votre gloire et les dieux votre piété. Allez-vous-en.
Oh. Ça, ça. Écoi, noit.
Alors, l'un d'entre eux, qui, du fait de son âge et de son commandement d'un régiment de cavalerie des compagnons, ne manquait pas de considération, du nom de Calinès, parla en ces termes. Ô roi, ce qui choque les Macédoniens, c'est que tu te sois donné des Perses comme parents, que les Perses soient dits parents d'Alexandre et t'embrassent, alors que parmi les Macédoniens, aucun n'a encore goûté à ces marques d'honneur. À ce moment, Alexandre l'interrompit. Mais je vous tiens tous autant que vous êtes pour parents d'Alexandre. Et à partir de maintenant, je vous appellerai ainsi. Quand il eut prononcé ces paroles, Calinès s'avança et l'embrassa. Et à sa suite, tous ceux qui voulaient l'embrasser. Et dans ces conditions, ils ramassèrent leurs armes et regagnèrent le camp en poussant des acclamations et en chantant le Péant. En l'honneur de cette réconciliation, Alexandre offrit un sacrifice à ses dieux habituels et donna un banquet public auquel il prit part, assis au milieu de tous les Macédoniens.
Quelle est justement la source d'Arien pour les discours? Est-ce qu'il rapporte des paroles qui ont été, d'une certaine façon, collectées par des témoins? Ou est-ce que, en fait, la rhétorique d'Alexandre a été inventée par Arien?
Franchement, nous n'en savons rien, de façon certaine. On a essayé de trouver des critères. Et le dernier historien d'Alexandre dit, par exemple, ce qui concerne dans le discours de Pice, son père Philippe n'était pas de nature à intéresser les Romains. Par conséquent, on peut supposer qu'Arien a suivi là une bonne source, tandis que tout le reste, c'est de la rhétorique romaine.
Mais par exemple, à Opis, Ptolémée était présent. Alors est-ce que c'est lui qui nous rapporte ces paroles ?
Même si nous les rapportait, ça ne serait pas un certificat d'authenticité. Il faut bien comprendre que nous ne sommes renseignés de façon certaine sur aucun discours de l'Antiquité. Qu'on en est toujours à la question posée par Thucydide à propos des discours prononcés pendant la guerre des Péloponnèses, où il dit en somme « j'ai fait de mon mieux, j'ai dit quelque chose qui devait coller à peu près avec l'inspiration du moment ». C'est-à-dire, au fond, ce que les acteurs de l'époque auraient dit s'ils avaient eu de leurs problèmes une conscience aussi aiguë que celle de Thucydide. De très nombreux discours rapportés dans l'Antiquité sont de purs et simples morceaux de rhétorique. C'est le cas de la quasi-totalité des discours rapportés par Tite-Live dans l'histoire romaine. Bien entendu, personne ne sait ce qu'a pu dire Camille ou ce qu'a pu dire Romulus avant de lancer les siens au combat contre les Sabins. Nous avons, je crois, un cas et un seul dans toute l'histoire gréco-romaine où nous avons, sinon, les paroles propres du personnage dont il s'agit, au moins une partie de ces paroles que nous pouvons confronter avec le discours rapporté par un historien. Ce cas, c'est celui du fameux discours de Claude, conservé au musée de Lyon, et dans lequel Claude, l'empereur Claude, propose que les Gaulois puissent désormais devenir sénateurs. Or, il n'y a pratiquement pas un mot de ce discours réel, sténographié, lui, qui se trouve dans le texte où Tacite nous conserve l'esprit de ce discours. Alors, savoir qui a prononcé, qui a écrit les discours d'Alexandre, c'est, à mon avis, un problème insoluble.
C'est un beau morceau de rhétorique, en tout cas.
Les deux sont de superbes morceaux de rhétorique. Et ce qui me fait penser, n'est-ce pas, que le discours d'Opis est largement un discours romain, c'est son insistance sur la civilisation urbaine.
Oui, alors Alexandre est un fondateur de ville.
C'est un fondateur de ville.
Mais Arien n'insiste pas beaucoup. Il nous cite au passage, donc il y a la fondation d'Alexandrie d'Égypte en 331, il y a Alexandrie du Caucase en 329, Alexandrie d'Arachosie en 330, puis Nicée et Bucéphale qui fondent après la bataille d'Hydaspe en 326, Alexandrie extrême qui sera Tashkent en 329 et Alexandrie du confluent en 326. Mais on a l'impression qu'il est passé tout de même bien vite et même s'il y a un établissement, que ça devait se réduire à assez peu de choses.
Ça se réduisait effectivement à assez peu de choses et c'est surtout la suite qui a compté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est par exemple aujourd'hui pour nous qu'Alexandrie d'Arachosie ? Eh bien, c'est Kandahar, une ville d'Afghanistan, où on a trouvé quand même, dans les environs, deux inscriptions en grec, dont l'une est trilingue, inscription placée là par l'empereur Maurya Asoka pour convertir toutes les populations, y compris les populations parlant grec, à la religion bouddhique. Au fond, la seule ville grecque de conséquence que l'on ait retrouvé, c'est Aïkanoum, au bord de la Moudaria, où l'on sait que furent gravées des maximes delphiques par les soins du disciple d'Aristote, Clearchos, mais dont nous ne connaissons pas le nom, et qui ne semble pas avoir figuré parmi les Alexandries. Alors, il y a naturellement l'énorme succès, l'énorme le colossal succès que représentera Alexandrie, dont Élius Aristide dira au second siècle qu'au fond, il est le principal legs d'Alexandre à la postérité, mais que c'est devenu aujourd'hui une grande ville de l'Empire romain.
Gukowski, il y a en Alexandre pas seulement un conquérant, un chef d'armée, il y a également un fondateur de ville, notamment toutes ces Alexandries qui vont marquer les étapes de la conquête entre 331 et 326. Alors comment sont fondées ces villes, avec quelle population, selon quelle organisation, quelle administration et quel rôle leur assigne-t-il ?
Il faut distinguer entre la première fondation, Alexandrie d'Égypte, et toutes les autres, celle d'Asie. Bon, Alexandrie d'Égypte...
En 331.
En 331, on ne peut pas négliger le rôle stratégique qu'Alexandre prêtait à cette fondation. Mais dès le départ, il a très certainement vu que la ville était destinée à jouer un rôle économique et, comme nous dirions aujourd'hui, culturel très important. Pour les autres fondations, la question est beaucoup plus difficile. D'abord parce que, à de rares exceptions près, elles n'ont pas durablement survécu. Je vous rappelle que, à la mort d'Alexandre, il y a eu une révolte des Grecs qu'il avait installés dans ses colonies d'Extrême-Orient, disons, ce qui semble indiquer que ces colons militaires, parce que ce sont à la fois des soldats et des gens qui doivent vivre sur le pays, que ces colons ne se plaisaient pas du tout dans les régions excentriques où on les avait installés.
Mais comment fonctionnent un petit peu ces villes ? Est-ce que, ils laissent probablement des Macédoniens, des Grecs, au fur et à mesure de ces passages, lorsqu'ils fondent une ville, une organisation militaire ? Mais quelle est justement la part de cette population grecque par rapport à la population autochtone ?
D'une part, certaines de ces villes ont un rôle que l'on méconnaît quelquefois, ce sont tout bêtement des villes hôpitales. Une armée comme celle d'Alexandre n'est pas équipée pour emporter avec elle les malades et les blessés. Il faut les laisser en arrière. Il y a une solution très simple qui consiste à les abandonner carrément. Et ils seront massacrés ou mangés par les bêtes. Les Macédoniens n'en sont tout de même pas là. Donc, les villes qui sont fondées sont, et les textes en particulier, Arien le disent très nettement, des villes où on installe les blessés et les gens qui ne sont plus capables de suivre la colonne. Très exactement. On laisse avec eux des hommes valides, naturellement, qui sont souvent des mercenaires grecs, parce que les Macédoniens ne sont pas nombreux, et Alexandre ne peut pas se permettre de les laisser en arrière. Tandis que les mercenaires grecs, ce sont des gens qui paient, mais ils, à la limite, compte tenu de tout ce qu'il a pu puiser comme ressources financières dans les trésors du grand roi, il pourrait faire venir toute la Grèce en Asie s'il le voulait. Il laisse donc des Macédoniens, malades, et qui se rétabliront si Dieu veut. Il laisse des mercenaires grecs, et puis, comme ça fera une population vraiment limitée, il installe aussi des barbares, c'est-à-dire tout simplement les indigènes de la région qui veulent bien s'installer dans cette ville. Et on a l'impression qu'il y a une cohabitation très honnête entre ces différentes composantes. On a l'impression aussi Mais là, la question est beaucoup plus difficile parce que les textes sont évanescents. On a l'impression qu'il y a eu une véritable entreprise de colonisation, je veux dire qu'il y avait des officines de recrutement en Grèce et que l'on attirait des gens vers ces nouvelles colonies en leur faisant miroiter, je ne dirais pas le Pérou, mais enfin, un avenir meilleur. Je crois en tout cas qu'il faut se garder d'une illusion qui est souvent répandue, à savoir qu'Alexandre aurait fondé des villes grecques en Orient. Ce ne sont pas du tout des villes grecques, ce sont de pauvres villes qui sont construites en terre battue, etc., selon les techniques locales, ça ressemblait des sortes de casbahs, si vous voulez. Ça ne ressemblait absolument pas aux grandes villes hellénistiques que nous connaissons en Asie mineure. Absolument pas. Il y a dû y avoir une immense désillusion de la part des Grecs qui arrivaient dans ces régions. La manière grecque de vivre, ils ne la trouvaient pas parce qu'il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas d'agora, il n'y avait pas de gymnase, il n'y avait pas tout ce qui faisait le charme de l'existence. C'est tout simplement parce que l'expérience d'Alexandre a été trop brève.
On a l'impression, à travers le récit d'Arien, que ce conquérant est essentiellement un chef de guerre, mais que ce n'est pas un administrateur de l'immense empire qu'il conquiert. C'est-à-dire, dès qu'il s'est emparé d'une ville, d'une place forte, qu'il a obtenu la soumission d'un peuple, on a l'impression que ça ne l'intéresse plus et qu'il passe éternellement une autre conquête. D'ailleurs, c'est apparemment le conflit qu'il a avec les Macédoniens qui en ont assez d'aller de bataille en bataille.
Ça, je ne crois pas. Je crois qu'il y a en Alexandre un administrateur. Et justement, alors ça, pour s'en rendre compte, il ne faut pas lire des récits, il ne faut pas lire des histoires-récits, il faut lire des travaux extrêmement minutieux, comme celui de Berveux, qui s'appelle Das Alexanderreich, n'est-ce pas, qui est paru pendant les années 20 de ce siècle, où l'on s'aperçoit qu'il y a bel et bien une organisation administrative de l'Empire, calquée d'ailleurs largement sur l'administration de l'Empire perse, mais où l'on peut suivre dans une certaine mesure la rotation des charges, le fait que telle satrapie soit tenue à tel ou tel moment par tel compagnon d'Alexandre. Et certainement, si Alexandre a eu besoin de renouveler si fréquemment et si complètement son armée, c'est qu'il était bien obligé de laisser dans les villes de garnison, dans les capitales de satrapie, des troupes qui occupent le terrain conquis. Alors naturellement, ça s'est fait de manière hâtive, maladroite, tout ce qu'on voudra, et puis vous avez des personnages dans l'entourage immédiat d'Alexandre qui se conduiront en gangsters, comme Harpalos, qui finira par se réfugier à Athènes, mais le souci d'administrer est tout de même très très présent chez Alexandre.
Aussi bien les indigènes que les troupes elles-mêmes portèrent de nombreuses accusations contre Cléandre et Citalcès, ainsi que contre leur entourage. Ils leur reprochaient d'avoir pillé des temples, violé des tombeaux anciens et commis à l'égard de leurs administrés des injustices qui dénotaient leur impudence et leur arrogance démente. Sur ces rapports, Alexandre les fit exécuter. Pour inspirer aux autres satrapes, gouverneurs ou chefs de district qu'il laissait derrière lui, la crainte de subir le même sort que ces individus s'ils se montraient injustes. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui maintint dans l'obéissance les peuples soumis par Alexandre, soit par la force, soit de leur propre consentement, malgré leur nombre et la distance qui les séparait les uns des autres. À savoir que sous le règne d'Alexandre, il était interdit aux gouvernants de léser les gouvernés.
Tout souverain, vous savez, veut donner l'image du roi juste. Peu de souverains se présentent à leur population en disant « je suis un roi injuste ». Ça, les contemporains le disent parfois, mais généralement pas le souverain lui-même, qui a tout intérêt à se présenter comme le roi juste. Je ne pense pas qu'il faille prendre très très au sérieux ce genre d'image. Ça fait partie du personnage, ça fait partie de la rhétorique de toutes les époques, y compris de la rhétorique de l'époque d'Arien, où l'empereur se présente comme un empereur libéral, comme celui qui distribue la nourriture au peuple, qui révoque les magistrats indignes, quitte à en mettre d'autres à leur place qui ne vaudront pas beaucoup mieux.
Pierre Briand, conquête militaire éphémère ou bien véritable colonisation ?
Les deux, je dirais. Véritable colonisation malgré tout, parce qu'il a quand même fondé un très grand nombre de villes, et surtout de villes garnisons. Et en particulier, à partir du moment où il arrive en Iran, sur le plateau iranien, en Asie centrale, il va fonder un très grand nombre de points forts à partir duquel va s'organiser la domination macédonienne. Il lui faut absolument disposer, puisque la conquête est permanente, il n'est pas toujours sur place. Donc sur ses arrières, il lui faut disposer de points forts, de points de fixation, de manière à empêcher les populations qui viennent d'être vaincues de se soulever sur ses arrières. Et donc il va fonder ses colonies en y mêlant des vétérans, des blessés, et également des populations indigènes, mais ces populations indigènes étant introduites presque périphériquement dans ces cités, et le pouvoir réel appartenant aux colons gréco-macédoniens, auxquels on assigne des terres qui autrefois étaient des terres cultivées soit par des communautés rurales, soit par des dynasts, etc. On leur assigne des terres qui vont être cultivées par les populations vaincues, et ces populations vaincues nourrissant, au fond, les conquérants. C'est l'image traditionnelle, l'image classique de la colonisation, et c'est au fond celle que reprend Alexandre, y compris jusque sur les frontières du nord de l'Empire, sur le Sir Daria, où il reprend la politique de Cyrus l'Ancien, qui avait 2 siècles plus auparavant fondé également une série de villes fortes sur le Sir Daria, qui étaient des villes à la fois des villes militaires de défense des frontières et à la fois des villes où s'organisaient des échanges très fructueux avec les populations nomades ou semi-nomades d'Asie centrale, des steppes d'Asie centrale et jusqu'à la Sibérie. Donc il y a un ensemble de faits qui montrent qu'effectivement Alexandre a fondé des colonies qui étaient justement destinées à asseoir la conquête.
Porus arrêta son éléphant et mit pied à terre. Après avoir bu et s'être rafraîchi, il demanda à être conduit au plus vite auprès d'Alexandre. Porus fut donc conduit où il le demandait. Mais Alexandre, apprenant son approche, s'avança à cheval en avant de la ligne de bataille et alla à la rencontre de Porus avec quelques compagnons. Ayant arrêté son cheval, il admira la taille du roi qui faisait plus de 5 coudées, sa beauté, cet air de volonté indomptée qu'il laissait paraître. C'était un brave qui en rencontrait un autre, après avoir héroïquement combattu pour son royaume contre un autre roi. Alors Alexandre, prenant la parole le premier, l'invita à dire comment il désirait être traité. Et Porus répondit, dit-on, « Alexandre, traite-moi en roi. » À quoi Alexandre, charmé par cette réponse, « Tu le seras, Porus, en ce qui me concerne. Mais toi, en ce qui te concerne, dis-moi ce qui peut être agréable. » Porus répondit que tout était contenu dans sa demande. Encore plus charmé par cette nouvelle réponse, Alexandre restitua à Porus sa souveraineté sur les Indiens de son royaume et ajouta à son ancien territoire un autre territoire plus grand que le précédent. C'est ainsi qu'il traita en roi un vrai brave, et à partir de ce moment, Porus lui fut fidèle en toutes circonstances.
Paul Goukowski, quel est le comportement d'Alexandre à l'égard de ses adversaires, à l'égard des barbares que sont les Perses et les Indiens? Est-ce qu'il y a une même attitude d'ailleurs pour ces deux peuples? Et d'autre part, dans l'empire qu'il crée, quelle place fait-il à ces barbares?
Il y a une mutation très profonde dans l'attitude d'Alexandre entre le début et la fin de son règne. Au début de son règne, le barbare, c'est-à-dire le Perse, c'est l'ennemi. Et, si je me permets un anachronisme, ce que les Grecs et les Macédoniens engagent au départ, c'est une sorte de croisade contre l'ennemi héréditaire. C'est un affreux anachronisme, mais enfin ça peut aider à comprendre ce qui s'est passé. Et puis très vite, Alexandre, au fur et à mesure qu'il remportait des victoires, s'est installé, si je puis dire, dans les meubles du vaincu. Et dès la victoire d'Issos, on a le sentiment qu'il prévoit que dans un avenir proche, c'est lui qui sera bientôt le successeur du grand roi. Et à partir de ce moment-là, son attitude change insensiblement, parce qu'il faut tout de même ménager la susceptibilité des Grecs et des Macédoniens, mais elle change à l'égard des Perses. Il y a évidemment une tentative de séduction. Lorsque des aristocrates perses, n'oublions pas que la Perse est une société très hiérarchisée, si je puis dire féodale, lorsque des aristocrates perses veulent bien se laisser séduire, tout se passe au mieux pour eux, on leur offre des commandements, des gouvernements comme satrape, etc. Lorsque les Perses résistent, on les massacre froidement. La bataille qui a coûté le plus aux Perses en vie humaine, ça n'est pas du tout la bataille du Granique, où les Perses étaient peu nombreux, ni celle d'Issos, ni celle de Gougamel. C'est une bataille dont on parle très peu, c'est la bataille des portes persiques. C'est la bataille par laquelle les Perses ont tenté de barrer Alexandre la route de Persépolis. Et là, ils ont été battus et massacrés jusqu'au dernier homme, n'est-ce pas? Là, ils ont perdu environ 40 000 hommes, c'est-à-dire plus que dans toutes les autres batailles. Je ne dirais pas que c'est un génocide, mais c'est une saignée terrible qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait plus de résistance jusqu'à la fin du règne d'Alexandre de la part des Perses. Vous me demandez quelle a été l'attitude d'Alexandre à l'égard des barbares, quels qu'ils soient, c'est toujours la même. S'ils se rallient, on est extrêmement gentil avec eux. Selon leur rang social, ils ont droit à des avantages qui ne sont nullement inférieurs à ceux qu'ils avaient dans l'ancien système, celui des Perses. S'ils ne se rallient pas, ben on les massacre et puis c'est tout. C'est un système d'une grande dureté, même d'une réelle férocité. Et il ne faut pas oublier, par exemple, que lorsqu'Alexandre est arrivé à l'embouchure de l'Indus, toutes les populations avaient fui, tellement les Macédoniens avaient une réputation épouvantable. Il s'est trouvé devant le désert.
Hey,
Récit d'Arien, est-ce qu'on peut avoir une idée assez juste de ce qu'était le comportement d'Alexandre à l'égard de la religion ? On le voit certes faire des sacrifices rituels, on a l'impression qu'il entretient des rapports beaucoup plus sceptiques avec les présages, par exemple la signification des présages, et que bien souvent il ne les respecte pas. Et Arien ne manque pas de signaler que quand il n'a pas respecté un présage, eh bien, en fait, il se passe quelque chose qui lui est contraire. Par exemple, face au site, les présages sont défavorables. Et en fait, Alexandre s'engage dans le combat, défait les Scythes, mais il boit de l'eau non potable et il est pris de diarrhée. Alors, est-ce qu'il y a là deux comportements très différents, celui d'Alexandre vis-à-vis de la religion et puis les sentiments religieux d'Arien ?
Ce qui est vrai, n'est-ce pas, c'est que dans la tradition grecque classique, il est sûr que l'on regardait les présages. Il est sûr qu'on examinait les entrailles des victimes. J'ai toujours été frappé, pour ma part, d'un mot de Milciade à Polémarque, c'est-à-dire le chef de guerre nominal, mais des Athéniens. Milciade dit à Polémarque, « Il dépend de toi si les dieux tiennent la balance égale que notre cité soit libre ou esclave. » Autrement dit, ce qu'un grec de l'époque classique demande d'abord aux dieux, c'est pas de le favoriser, c'est de tenir la balance égale, de ne pas intervenir massivement au sujet de l'adversaire. Alors, bien entendu, comme dans tout récit historique, les présages non respectés conduisent ensuite à un désastre ou à un demi-désastre. Alors il y a l'histoire du diadème perdu dans le fleuve.
Alexandre ayant fait mentir la prophétie des Chaldéens, puisqu'à Babylone il ne lui était rien arrivé de fâcheux, contrairement à leurs prédictions, il se hâta de sortir de Babylone avant qu'il ne lui arrive quelque chose, et plein de confiance, il reprit sa navigation dans les marais en ayant Babylone à sa gauche. Là, une partie de sa flottille se perdit bel et bien dans les chenaux, faute de pilote, jusqu'à ce qu'il eût envoyé lui-même un pilote et les eût ramenés dans le courant. Et l'on rapporte l'histoire suivante. La plupart des tombeaux des rois assyriens ont été construits dans les lacs et dans les marais. Tandis qu'Alexandre naviguait sur ces marais, on dit qu'il pilotait lui-même sa trière, un coup de vent violent lui enleva son chapeau de soleil et le diadème qui y était attaché. Le chapeau plus lourd tomba dans l'eau, mais le diadème, emporté par le vent, resta accroché à un roseau. C'était un des roseaux qui avait poussé à côté d'un des tombeaux des anciens rois. Cela même constituait un présage de ce qui allait se passer. Mais de plus, un matelot ayant nagé jusqu'au diadème qu'il avait détaché du roseau, ne le prit pas dans sa main parce qu'en nageant il l'aurait mouillé, mais se le mit autour de la tête et le rapporta de cette façon. Et la plupart des historiens d'Alexandre disent qu'il fit don d'un talent au matelot pour le récompenser de son zèle, mais qu'il lui fit couper la tête, les devins lui ayant prescrit en cette circonstance de ne pas laisser en vie cette tête qui avait porté le diadème royal. Toutefois, Aristobule dit que le matelot reçut bien un talent, mais aussi des coups de fouet pour avoir ceint le diadème. Aristobule, donc, lui aussi, dit que c'est un marin phénicien qui rapporta le diadème à Alexandre. Mais certains prétendent que ce fut Séleucus et que cela présageait la fin d'Alexandre, et pour Séleucus, son grand royaume. Et effectivement, parmi les successeurs d'Alexandre, c'est Séleucus qui fut le plus grand roi, qui eut l'esprit le plus vraiment royal et qui, après Alexandre, régna sur le plus vaste territoire. Cela, pour moi, ne fait aucun doute.
Je crois que il est pratiquement impossible de dire ce qu'en croyait Alexandre lui-même. Ce que nous pouvons savoir, c'est qu'Alexandre s'est posé comme l'héritier de l'Empire, que peut-être même il a pris plus ou moins au sérieux l'oracle d'Amon qui le déclarait fils de Zeus. Est-ce qu'Alexandre se pensait Dieu et de quelle façon? La réponse est que nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est que un double discours est parfaitement possible et sera parfaitement possible tout au long de l'Antiquité. Une conscience aiguë de l'humanité du roi et en même temps une affirmation politique de sa divinité. Il y avait donc toujours, constamment, deux registres. Un registre qui est en somme le registre politique, où l'on est effectivement un dieu par rapport aux populations, par rapport aux gens dont on exige le respect, et un registre personnel, où l'on sait parfaitement que l'on est un homme et que l'on mourra, et la preuve qu'on n'est pas tout à fait un dieu quand on vit, c'est qu'on en devient encore un quand on meurt, si vous voulez.
Bien que déjà vraiment malade, il célébra les sacrifices prescrits. Il donna l'ordre aux généraux de se tenir dans la cour, aux commandants de 1000 hommes et de 500 d'attendre devant les portes. La maladie ayant maintenant gagné tout le corps, il fut transporté du parc dans le palais. Quand les officiers entrèrent, il les reconnut, mais il ne put leur adresser la parole, étant désormais sans voix. Toute la nuit, il eut une énorme fièvre, ainsi que le jour qui suivit, et encore la nuit d'après et la journée. Telle est la relation qui se trouve dans le journal royal, qui dit aussi que les soldats furent pris du désir de le voir, les uns pour le voir encore vivant, les autres parce que le bruit courait qu'il était déjà mort et qu'ils supposaient que la mort était tenue secrète par les gardes du corps, à mon avis du moins. La plupart, tenaillés par la douleur et l'amour de leur roi, entrèrent de force pour voir Alexandre. Mais tandis que l'armée passait devant son lit, il était déjà privé de l'usage de la parole à ce qu'on dit, ce qui ne l'empêchait pas de saluer chacun en soulevant la tête au prix d'un grand effort et en faisant un signe des yeux. Et le journal du roi dit que dans le temple de Sérapis, Python, Attal, Démophon se relayaient pour dormir dans la tente de l'oracle du dieu, avec en plus Cléomène, Ménidas et Séleucus. Il voulait savoir du dieu s'il était mieux et préférable pour Alexandre d'être transporté dans le temple du dieu pour le supplier de le guérir. Et le dieu rendit sa réponse, qui était de ne pas transporter Alexandre dans son temple, mais qu'il serait mieux pour lui de rester où il était. Les compagnons firent connaître cette réponse, et peu après, Alexandre mourut, comme si, justement, c'était désormais mieux pour lui. La relation d'Aristobule s'arrête là, comme celle de Ptolémée. Mais d'autres racontent en outre ceci, à savoir que les compagnons lui demandèrent à qui il laissait son empire, et qu'il répondit « au meilleur ».
Pierre Briand, en écrivant l'Anabase d'Alexandre, est-ce que Flavius Arien, contemporain de l'Empire romain d'Adrien, adresse ce qu'on pourrait appeler une leçon à l'Empire romain de son époque en écrivant l'histoire d'Alexandre ?
De mon point de vue, ça ne fait aucun doute. Comme tout historien de l'Antiquité ou de nos jours, Arien est profondément inséré dans la société de son temps, dans l'idéologie dominante de son temps. Lui-même, d'ailleurs, Arien a fait partie de la classe dominante de l'Empire romain, puisqu'il a été sénateur, qu'il a détenu des postes de commandement dans l'armée, et il n'a jamais caché dans ses écrits ses préférences pour l'ordre, en particulier pour l'ordre romain. Si vous voulez, on peut comparer avec un homme qui écrit quelques années avant lui, c'est Plutarque, qui dans un de ses ouvrages très fameux, qui s'appelle « Sur la fortune d'Alexandre », fait d'Alexandre un précédent de la conquête romaine. Et cela est visible dans tous les auteurs grecs de l'époque romaine, qu'il s'agisse de Plutarque, qu'il s'agisse de Strabon, lui-même originaire d'Asie mineure, comme Arien, ou comme Arien de Nicomédie. Et on a là, à l'époque romaine, au fond, la constitution d'une idéologie coloniale, si on veut, ou impérialiste, qui cherche aussi dans le passé des précédents. Et d'ailleurs, les empereurs romains eux-mêmes voient dans Alexandre un précédent. On connaît en particulier l'admiration de Néron pour Alexandre. Néron se prend pour un second Alexandre, et Trajan, donc un contemporain d'Arien, Trajan, lorsqu'il vient conquérir Babylone, offre à Babylone un sacrifice en l'honneur d'Alexandre, montrant bien par là les liens qu'il entend établir entre la conquête d'Alexandre et l'Empire romain. Mais cette idéologie coloniale qui s'instaure, qui se structure à l'époque romaine, et donc à l'époque d'Arien, sera reprise in extenso, sans un iota de changer, si vous voulez, à l'époque contemporaine, dans l'historiographie coloniale européenne, je pense en particulier à l'historiographie française, que je connais mieux que d'autres historiographies, ou également dans les manuels scolaires, dans les ouvrages de grande vulgarisation, le précédent d'Alexandre sera repris pour justifier la conquête européenne, et le plus simple, c'est de tracer un trait direct entre Alexandre et les conquêtes de la France contemporaine. Et de la même façon, donc, dans l'Antiquité, à l'époque romaine, on cherche à faire d'Alexandre le précédent de l'Empire romain, et c'est même la raison, je dirais, pour laquelle il n'est pas possible de dresser d'Alexandre un portrait complètement défavorable, dans la mesure où serait-ce aborder même la logique de l'idéologie qu'on entend mettre en place à l'époque romaine. Mais lorsque on étudie le vocabulaire d'Arien, qu'on le compare à d'autres auteurs de l'époque romaine, le choix des termes, le choix des situations, Arien, manifestement, d'une façon implicite, pense constamment à ce qu'il se déroule sous ses yeux, c'est-à-dire la conquête romaine, l'édification d'un immense empire unifié. Il fait d'Alexandre une sorte de pré-empereur romain, et l'empire d'Alexandre, c'est au fond l'ordre romain tel qu'il est établi d'ailleurs à l'époque d'Arien, à l'époque du Haut Empire.
Finalement, Pierre Vidal-Naquet, quelle est l'originalité essentielle et l'intérêt essentiel de cette anabase d'Alexandre, de ce récit de Flavius Arien par rapport aux autres récits historiques ?
Eh bien, le premier trait, c'est évidemment son aspect rationaliste. C'est-à-dire que par rapport et au roman d'Alexandre et à ce qu'on appelle la Vulgate, Arien, pour les historiens d'Alexandre, c'est le principe de réalité par rapport au principe de plaisir, en termes freudiens. On peut s'éjouir en lisant la Vulgate, notamment Kenkurs, on peut s'éjouir encore plus en lisant le roman d'Alexandre, mais pour revenir à la réalité, rien ne vaut évidemment à rien. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est un exemple prodigieux pour réfléchir sur ce qu'est l'histoire, sur le jeu que représente l'histoire entre le proche et le lointain, si vous voulez. Et la meilleure preuve, c'est que vous avez deux catégories, aujourd'hui, de lecteurs d'Arien. Vous avez ceux pour qui il est possible de traverser Arien. Ce sont les gens qui s'intéressent avant tout à Alexandre. Alors ceux-là traversent Arien pour aller à travers Arien, considéré comme la source principale, en direction du personnage d'Alexandre. Et il y a ceux pour qui, au contraire, le récit ne peut pas être contourné, que la forme qu'il prend est une chose importante, que l'époque où écrit un historien est reflétée autant dans son récit que l'époque dont il traite. Et ceux-là s'intéresseront majoritairement à Arien lui-même. Et d'une certaine manière, j'ai un petit peu joué les paradoxes dans cette étude sur Arien que vous avez bien voulu signaler, puisque je suis un spécialiste beaucoup plus du 4e siècle avant Jésus-Christ que du 2e siècle après. Et j'ai voulu en quelque sorte jouer la difficulté en mettant l'accent sur ce second siècle après Jésus-Christ plutôt que sur le 4e siècle avant. C'est le paradoxe d'Arien.
C'est un fait que moi aussi j'ai blâmé certaines actions d'Alexandre dans mon ouvrage. Mais je n'ai aucune honte à exprimer l'admiration que j'éprouve pour Alexandre lui-même. D'ailleurs, les actions en question, je les ai blâmées à cause de mon respect de la vérité et en même temps pour rendre service à l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai entrepris cet ouvrage, poussé par la divinité, moi aussi.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur l'historien d'Alexandre et de la confrontation Orient-Occident dans l'Empire romain d'Adrien, Flavius Arien par Jean Montalbetti, médiateur Pierre Vidal-Naquet, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, expert Henri Tonnet, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, Pierre Briand, professeur à Toulouse 2, Paul Goukowski, professeur à Nancy 2. Les textes, extraits de l'Anabase d'Alexandre le Grand de Flavius Arien, traduits par Pierre Savinel, ont été dits par Philippe Moreau. Prise de son, Jean-Pierre Gerbeau, Daniel Labigne. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mars 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr, à la page des nuits.
Hello, baby, gee, I'm glad you're back again. You know my thoughts have always been about you. I don't know how I ever got along without you. Hello, baby, seeing you is just divine. With love to guide me, I'll keep you beside me. Hello, baby mine.
seeing you is just divine. With love to guide me, I'll keep you beside me. Hello, baby mine. Hello, baby mine.